Ok, on continue avec le diplo du mois de décembre. Et alors, il y a un grand papier de Pierre Rimbert dans Le Monde diplomatique sur la presse. Et Pierre Rimbert a un projet pour une presse libre qui serait dégagée de l'emprise, évidemment, de l'argent, mais aussi de l'influence gouvernementale, de l'influence de l'État. Et Pierre Rimbert nous dit « c'est pas compliqué, on a tous les moyens sous les yeux, sous la main ». Et il va nous expliquer comment. Ça risque d'être assez éclatant.
Oui, on a tous les moyens sous la main, mais en même temps, ni le patronat de la presse, ni l'État semblent se soucier de l'état calamiteux de la presse française. Là, il y a des journalistes qui sont licenciés très régulièrement. Libération, je crois, vient de se séparer d'une centaine de personnes. Et depuis 20 ans, on a une espèce de cycle toujours identique, avec des journaux qui connaissent des difficultés de vente. Et puis, un investisseur vient reprendre la boutique. Ensuite, il licencie une partie du personnel ou il restructure le capital. Et puis, on repart pour un tour. Et l'État accompagne cette espèce de fuite en avant avec des rustines législatives, des rustines financières. À l'heure actuelle, il faut savoir que les aides de l'État à la presse, c'est 1,6 milliard par an, selon la Cour des comptes. 1,6 milliard par an, c'est 17% du chiffre d'affaires total de la presse. Et si on prend juste la presse générale et politique, c'est 19% du chiffre d'affaires. Donc on est dans une espèce de presse, une industrie de la presse qui est déjà semi-administrée, elle fonctionne mal. Les journaux sont de moins en moins intéressants parce qu'ils sacrifient les moyens rédactionnels, il y a moins d'enquêtes, moins de reportages.
On parle de la presse écrite, là.
On parle pas seulement de la presse écrite, on parle de la presse écrite et de la presse en ligne. L'idée, là, c'est de traiter les deux à la même enseigne. Dans ce projet de réforme de la presse, il n'y a pas de différence fondamentale entre la presse en ligne et la presse imprimée. Et donc, cette idée, elle repose sur trois piliers. Le premier pilier, c'est de distinguer assez radicalement la presse d'intérêt général, celle qui contribue à nourrir le débat public, à éclairer, comme on dit, la collectivité, et la presse récréative, la presse spécialisée. Il faut savoir qu'en France, là, actuellement, il y a 4726 publications qui sont recensées par la Direction générale des médias et des industries culturelles du ministère de la Culture. 4726 publications en 2012, et c'est vraiment gigantesque, un océan de papier, et dans cet océan, il y a à peine plus de 500 titres qui répondent à la qualification de presse nationale ou régionale d'information politique et générale. Alors évidemment, on ne peut pas réduire la presse d'intérêt général à ces 500 titres, mais tout de même, on a eu l'occasion de le rappeler dans Le Monde diplomatique, des publications comme Closer ou comme Télé 7 jours ou le journal de Mickey, il est assez simple, assez intuitif de se dire qu'elles ne contribuent pas de manière égale au débat public, à la bataille d'idées, que des publications qui se consacrent au reportage.
Encore que le journal de Mickey à travers les siècles, c'était quand même une sacrée bande dessinée.
Va pour le journal de Mickey. Ce que vous dites est juste. C'est pas évident de tracer une frontière entre la presse d'intérêt général et la presse récréative. C'est pour ça qu'on ne peut pas se contenter de critères de contenu et que pour distinguer radicalement l'une de l'autre, il faut avoir des critères de structure. Et parmi ces critères de structure qui permettent de distinguer d'un côté une presse qui serait utile à la collectivité et une autre, une presse qui a une égale dignité, mais qui serait une presse dite de marché, elle fonctionnerait par et pour le marché, on peut distinguer trois exigences. La première, c'est la non-lucrativité. Les éditeurs de presse, d'intérêt général, doivent avoir un statut d'entreprise non-lucratif. C'est-à-dire que les bénéfices, s'il y en a, ne sont pas reversés aux actionnaires. La deuxième, c'est la non-concentration. C'est le sens des ordonnances de 1944, lorsque le gouvernement provisoire purge la presse de l'influence de l'argent à la libération. Interdiction de constituer des groupes de presse, c'est-à-dire plus précisément, dans le cadre du projet qu'on présente dans Le Monde diplomatique, de disposer de plus d'un titre dans chaque type de périodicité. C'est-à-dire on peut avoir un quotidien, un hebdo, un mensuel pour pousser des idées, pour les présenter. Et puis, dernier critère pour distinguer ces deux types de presse, la presse d'intérêt général de la presse récréative, la proscription de la pub. Les éditeurs doivent interdire la publicité dans leurs colonnes. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que faire pour ces titres d'intérêt général? L'idée de ce projet, c'est de créer un service commun qui mutualiserait les infrastructures. C'est un principe qui existe déjà, Prestalis, qui est là. Le service mutuel de qui apporte les journaux dans les kiosques et qui rapporte les invendus est utilisé par l'ensemble des journaux. Les NMPP auparavant, Nouvelle Messagerie de la presse parisienne. Là, il s'agit d'étendre ce principe et de mutualiser l'ensemble des fonctions. C'est-à-dire que vous lancez un journal, Daniel Mermet, en ligne par exemple, vous faites un projet et vous adressez à un service. Et ce service va vous fournir le matériel, des locaux. Si vous faites un journal en ligne, vous aurez des développeurs informatiques, vous aurez un kiosque en ligne, vous aurez des bases de données, un service de gestion de bases de données, des bidouilleurs informatiques, des hackers qui permettront d'améliorer la puissance de votre site Internet. Si vous faites un journal papier, vous aurez le bénéfice des messageries telles qu'elles existent à l'heure actuelle, des kiosques également, mais aussi des services juridiques, des services administratifs. C'est-à-dire, puisque l'information est un bien commun, il existera un service commun qui donnera aux éditeurs les moyens de leur ambition éditoriale.
Si vous n'êtes pas en train d'inventer l'ORTF.
C'est plutôt de réinventer la sécurité sociale. La sécurité sociale, après la guerre, son fonctionnement était paritaire. C'est-à-dire qu'il était géré par ce qu'on a appelé plus tard les partenaires sociaux, les salariés et les patrons. Entre 45 et 60, le rapport de force entre salariés et patrons était de 3/4 pour les salariés, 1/4 pour les patrons. Donc c'est un système de gestion qu'on peut considérer comme réformiste, c'est pas révolutionnaire, mais disons que le rapport de force n'est pas trop défavorable aux salariés. Et ce type de gestion paritaire, avec ce type de rapport de force, pourrait s'appliquer à la gestion de ce service commun des infrastructures de la presse. Et les entreprises de presse se réduiraient à la rédaction, à des journalistes. Voilà le deuxième principe, la mutualisation des moyens. Alors évidemment, comment est-ce qu'on finance tout ça? On finance tout ça exactement comme la sécurité sociale, avec une cotisation. Ce n'est pas une cotisation sociale, c'est une cotisation information.
Chaque Française et chaque Français va désormais cotiser.
Exactement.
En souriant.
Comme pour la sécurité sociale, comme pour les retraites, la collectivité ayant besoin de cette espèce de bien commun qu'est l'information, nécessaire pour former nos jugements politiques, pour prendre des décisions éclairées, va collectivement financer les moyens de cette ambition, c'est-à-dire se doter d'un service d'information en commun. Alors on a fait la calcul avec notre journaliste, ce serait une cotisation qui serait assise sur la valeur ajoutée, c'est-à-dire sur la richesse que produit chaque année le pays. Ce serait 0,1% de cette richesse. Et le coût demandé par ce service est à peine plus élevé que le coût actuel des aides à la presse, qui serait dès lors supprimé. Ce coût, il est de 1,9 milliard d'euros. Avec la cotisation sociale et un service commun qui donne de réels moyens à la presse d'informer, alors qu'actuellement, les aides à la presse sont d'un montant de 1,6 milliard. Donc, pour la collectivité, c'est 300 millions d'euros de plus. 300 millions d'euros de plus, c'est à peine un tiers de la rallonge budgétaire que l'État a accordée à Dassault pour la modernisation de son chasseur-bombardier, le Rafale, en janvier dernier.
Quand on se réfère à la défense, de toute façon, on trouve que tout est moins cher et tout est possible.
Ah, c'est sûr que les budgets par rapport à celui de l'information sont très, très différents. La cotisation à ceci de supérieur à l'impôt, c'est qu'elle échappe à la fois à l'État et au marché. Elle ne passe pas dans le budget de l'État. Elle ne peut pas être stockée, elle ne circule pas. Elle est directement transformée en service. Et donc, elle ne peut pas non plus être un support de spéculation. C'est une invention révolutionnaire, la cotisation sociale. Bernard Friot en a souvent parlé. Et là, il s'agit de financer l'information perçue comme un bien collectif grâce à la cotisation, qui est en quelque sorte notre trésor collectif.
Prenons un journal comme Le Monde diplomatique, par exemple. Le mois dernier, vous avez publié les comptes, carrément, du Monde diplomatique. Et là, on a quand même des détails. Alors, ce n'est pas forcément le papier le plus attrayant, le plus attirant, mais enfin, il y a quand même quelques précisions. Et là, on voit assez clairement, en effet, le budget, la ligne concernant la commercialisation, qu'on peut comparer à la ligne concernant la rédaction.
Vous avez raison, la rédaction, c'est environ 2 millions d'euros par an, et la commercialisation, à peu près la même somme, 2 millions. Et si on appliquait le système au monde diplomatique, la partie commercialisation serait mutualisée, elle ne serait pas à la charge du journal, et le journal serait en quelque sorte réduit à l'activité des journalistes. Mais attention, mutualiser les infrastructures...
Les commerciaux vont être contents de vous entendre, mais le diplôme va nous mettre au tapis.
Alors justement, on ne met pas au tapis ni à la porte les gens qui font en réalité un journal avec les journalistes, et tout autant que les journalistes qui sont les fabricants, les maquettistes, les développeurs informatiques, la partie juridique, les secrétariats, l'administration... Tous ces gens-là continuent dans notre projet à travailler ensemble sous le même toit. Simplement, ils ont deux employeurs différents, l'un le service mutualisé et l'autre l'entreprise de presse.